Alexis Cohen, bonjour. Donc, votre actu, c'est la sortie du film de Pascal Elbé, On est fait pour s'entendre, qui sort chez nous le 24 novembre. Félicitations, j'ai entendu les chiffres très bons, là, quand même, sur déjà la sortie parisienne.
On est content. Non, c'est... Puis quand on voit toutes ces réactions du public, on est très, 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 très touché.
Alors, la première fois que Pascal m'a parlé de ce projet, c'était en septembre 2018 à Namur. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'en fait, deux mois plus tôt, vous aviez monté votre propre boîte de prod, Père et Film. Expliquez-nous un petit peu la genèse de votre projet et surtout votre arrivée dans l'aventure. Parce que je viens d'apprendre que, en fait, il y a un lien, en effet, de famille quand même là-dedans.
Je dis parfois, j'ai connu Pascal quand il était tout petit. La réalité, c'est qu'il me connaît depuis que...
Vous êtes petit.
J'ai quelques années. Et donc, je connais bien Pascal. Autour de la sortie de son deuxième film, on a réfléchi ensemble à quel pouvait être son troisième film. Et on s'est dit que c'était pas mal quand même de faire un film qui lui ressemble un peu plus dans le genre, de revenir vers ses premières amours, la comédie, type père et film, père et fils, pardon, lapsus, type Mauvaise foi, des comédies qu'il a pu coécrire, ce genre de comédie.
C'est vrai que Tête de Turc et Je compte sur vous, c'était plutôt du noir.
Voilà, là, c'était vraiment de revenir vers un type de film, et puis on s'est demandé quel sujet, et puis finalement il était au bout de son nez, c'était je pense le mieux pour parler de lui, de ce qu'il a traversé, et de le traiter comme beaucoup des sujets qu'il traite en comédie, avec énormément de légèreté, de sujets assez profonds, puisque ce film évidemment parle de malentendance, mais parle de transmission, parle de rapport à l'autre, mais toujours traité de manière très légère.
Est-ce que cette malentendance et le déni, est-ce que vous l'avez connu, vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été difficile à lui faire admettre déjà dans un premier temps
ça prend du temps, mais je pense que c'est normal. Alors on n'est pas sur des sujets aussi sur des, on va dire, handicaps. On parlera de singularité, mais aussi lourd que la cécité ou que la surdité, là c'est, on va dire, plus léger quand même, mais oui, ça amène à des isolements. On refuse des dîners assis parce qu'il y a plus de bruit. Donc oui, c'est des choses que j'ai pu voir. La réalité, c'est que c'est aussi synonyme, être malentendant, ça peut être, en tout cas dans l'inconscient collectif, à tort probablement, mais synonyme du temps qui passe, de la vieillesse, mais en réalité c'est un handicap qui touche toutes les tranches d'âge, et en fait dans le film on le voit assez bien, finalement, le dire chez l'autre, ça évoque, bon, bah, c'est ok, on passe à autre chose, et en fait on se fait souvent soi-même un monde de ce qui est totalement acceptable chez l'autre.
Et chez Pascal, le déclic s'est fait comment? C'est lors d'une soirée, peut-être arrosée, je ne sais pas, comment est-ce qu'il l'a accepté, lui, et comment il a finalement décidé d'utiliser cet handicap, ce souci pour se lancer dans l'écriture?
Je pense que...
Ou si ça fait petit à petit...
Je pense que c'est un ensemble de plusieurs facteurs. Je pense qu'il a été à l'écoute de ses proches. Je pense qu'il y a eu des situations, notamment dans son jeu et dans son travail d'acteur sur un plateau, quand vous avez du mal à entendre, ou que vous prétendez avoir bien entendu, mais qu'en réalité vous avez
pas
les instructions d'un réalisateur. Bon, bah, on se dit, ok, il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Et à partir du moment où on décide de s'équiper, et ben c'est tout un combat pour accepter cet appareillage et pour apprendre à vivre avec. Mais il y a une phrase qui résume assez bien ce parcours-là, c'est qui est dite dans le film, c'est entre l'enfer et le néant, l'enfer du bruit et le néant, le vide. Et ben, je choisis l'enfer, parce que le néant, c'est l'antichambre de la mort, et l'enfer, enfin le bruit, le son vous connecte à l'autre. Le bruit, c'est la vie, ce qu'on dit, et oui, apprendre à vivre et à vivre avec ces nouveaux bruits du quotidien, ça peut être difficile, mais c'est essentiel pour rester connecté et rester vivant.
Alors le film est produit par Eric Gellman et Philippe Rousselet, Jéricho. Jéricho, c'est La Femme du Bélier, Radin, Rémi sans famille. Et vous, enfin père et film, vous êtes coproducteur. Pour expliquer les casquettes.
Le schéma, en fait, donc c'est un peu technique, mais en France, vous pouvez avoir une ou deux sociétés de production par film. Quand on a commencé à parler avec Pascal justement du sujet. Son premier scénario était, enfin, la première mouture du scénario était géniale. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. On a eu Sandrine Kiberlin qui a accepté tout de suite, qui est formidable dans le film, qui est une actrice et une femme incroyable. En tant que prod, en tant que producteur, je me suis évidemment pas lancé tout seul dans l'aventure de producteur. J'aurais pu essayer, mais l'idée c'est de mettre le projet au-dessus et au devant de la scène. Et du coup, la réflexion, ça a été, oui, en 2018, comment s'entourer des meilleurs et en même temps, comment s'entourer de gens qui vont me laisser une place pour apprendre le métier, pour aller rencontrer des gens, des partenaires financiers qui allaient nous aider à fabriquer le film. Et on a rencontré.
Et c'est comme ça que le 30 juillet 2018, vous mettez 45 000 sur la table en disant ça y est, on est parti.
Ça s'est fait
avant.
En réalité, ça s'est fait un peu avant.
C'est ça.
Parce que je savais que je voulais produire ce film. Ça a été une chance incroyable de rencontrer Eric Gellman et Philippe Rousselet, qui sont des producteurs rares, exigeants, humains. Et c'était incroyablement agréable de travailler avec eux dans un climat de confiance absolue. Et voilà, c'était génial de bosser avec eux sur toutes les étapes.
Alors, qui dit producteur dit quand même l'homme qui tient les rênes et surtout la cassette. Est-ce que c'est difficile par rapport, ou est-ce que vous êtes plutôt complémentaire par rapport à Pascal, ou est-ce qu'il a aussi cet aspect casquette financière?
Alors, je pense que notre force, c'est notre complémentarité. Même si il y a quelques années j'ai fait un petit passage au conservatoire des théâtres et que j'adore l'aspect artistique, ces 10 dernières années j'ai développé des compétences, oui, un peu plus business, financières, et Pascal, je pense qu'il a clairement une fibre artistique et en ça on est assez complémentaires. Et en plus, je crois qu'il déteste tous ces aspects chiffres, finances, il déteste ça. Donc, j'essaye de le ramener un peu à ça aussi. Mais voilà, je pense que c'est important qu'il y ait une complémentarité dans les partenaires à aller chercher. Mais oui, le rôle du producteur, pour compléter, je dirais plus que c'est un rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire que le réalisateur, c'est le patron c'est le patron du film, et le producteur est là pour l'accompagner et faire en sorte que les rouages soient le plus fluide possible et que toute la mécanique, depuis le développement jusqu'à la sortie, en passant par le financement, le tournage, la post-prod, se fasse de la manière la plus fluide et naturelle possible, et d'être entouré des meilleurs partenaires. Et j'aimerais juste, du coup, puisque je parle des partenaires, citer Diafana, qui était un partenaire incroyable. C'est notre distributeur français dans la sortie du film. Et c'était une aventure humaine géniale toutes ces années.
Alors c'est vrai que maintenant, quand on voit les belles images avec le drone sur la plage de Houlgate, on se dit, il y a quelques années, ça aurait coûté un pont, le producteur serait arrivé, on dirait on coupe et qu'ici on a quand même maintenant une facilité, je veux dire, de au niveau film qu'on n'avait pas il y a fatalement 10 ans d'ici, quoi.
C'est vrai que les moyens, enfin voilà, maintenant on va filmer une scène de drone, ça coûte beaucoup moins cher que de la tourner en hélico comme c'était le cas il y a quelques années. Le producteur reste quand même un équilibriste entre servir les intérêts du réalisateur pour faire le plus beau film possible avec le plus de moyens artistiques possibles, mais de l'autre, une réalité financière qui est celle du cinéma. Pour entrer un peu dans les détails, ce film a été un peu compliqué à financer. On a réussi à le faire avec des partenaires formidables, avec Canal+, avec France 3, avec
et Entendre, comme le disait Pascal,
exactement, donc, avec quelques Sofika, et on est super heureux d'avoir eu exactement ce qu'il nous faut, mais exactement ce qu'il nous faut, pas plus,
pas d'excès,
et voilà, donc c'est à chaque fois un rôle d'équilibriste entre servir le réalisateur et être face à cette réalité financière aussi.
Sans compter que, hélas, vous avez aussi subi la pandémie, parce que j'ai vu qu'en fait, normalement, justement, en parlant de vous deviez tourner, vous avez trois mois à postposer le tournage, justement.
Exactement, mais ce qui me permet d'avoir la petite fierté de me dire que je suis un des tournages de films français les plus longs, puisque le tournage a duré 7 mois. Et blague à part, oui, il a été interrompu, en fait, entre le début du tournage en février et la fin en juillet, pendant 2 mois et demi. Nous avons été confinés, d'ailleurs, pour la petite histoire, le dernier jour du tournage juste avant le confinement, c'est le 13 mars, jour de l'anniversaire de Pascal. On aurait pu rêver mieux comme cadeau d'anniversaire.
Ouais, c'est clair. Alors, en tant que producteur, l'arrivée des plateformes doit quand même un peu changer la vision des choses. Est-ce qu'au niveau, ça a pour vous eu un impact au niveau financement, au niveau distribution?
Je pense que l'impact se fait surtout sentir pour le cinéma. Je pense que c'est une opportunité pour les producteurs et pour les acteurs, et qu'il faut voir les plateformes d'un bon œil, mais que le régulateur a aussi son rôle à jouer. Parce que... alors je parle pour la France, mais on reste une exception culturelle en France, en Europe, et pour avoir travaillé un peu en start-up, il y a des moyens colossaux avec l'arrivée de plateformes américaines qu'il faut réguler, sinon c'est le Far West et sinon ça peut être compliqué. Donc il faut le voir, je pense, comme une opportunité, mais à encadrer, et je pense que c'est tout l'objet des efforts et du travail qui est de concertation qui est fait ces derniers mois, ces dernières années avec entre les plateformes et les acteurs historiques majeurs du cinéma. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, le principal c'est de continuer à échanger avec le politique, les acteurs publics et avec les plateformes pour trouver le meilleur compromis pour encadrer tout ça.
Chronologie des médias a été un peu mise à mal, et elle l'a encore. Ça ne doit pas être évident non plus pour un producteur.
Ah oui, c'est des schémas anciens qui sont un peu bouleversés.
Qui demandent adaptation, quand même.
C'est ça. Il faut savoir s'adapter. Il faut. Mais c'est des sujets effectivement qui sont pas faciles. Ouais, mais c'est des discussions importantes.
Alors, est-ce que vous êtes intervenu au niveau des dates de sortie? Parce que ça doit quand même être un casse-tête, surtout avec l'arrivée massive après la pandémie et le blocage. Est-ce que vous intervenez dans la détermination? Bon, c'est sorti le 17 en France, 24 en novembre en Belgique. Vous avez fait une trentaine d'avant-premières, Colmar aussi en festival. Est-ce que ça doit quand même pas être évident pour un producteur de se dire, et le distributeur, de choisir le bon moment, non?
C'est compliqué, et puis la réalité c'est qu'en ce moment avec une baisse de fréquentation des salles de moins 25% par rapport à la moyenne 2015-2019, et ces moins 25% c'est la moyenne depuis la rentrée, c'est compliqué, et la réalité c'est que est-ce qu'il y a aujourd'hui une bonne date de sortie? Je sais pas, mais voilà, on a eu la chance déjà d'avoir des échanges très transparent et vraiment dans la confiance avec notre distributeur, donc c'est déjà très agréable de travailler dans ces conditions avec entre prod et distributeur. Voilà, on est sorti hier, on est très content d'être sorti hier, on a fait des jolis chiffres.
On peut le dire.
Et puis, dans la proposition aujourd'hui en comédie de ce type, il n'y en a pas, et puis il n'y en a pas avant quelques semaines, donc au final c'est je pense je ne vais pas dire la moins pire des dates, mais on va dire une bonne date.
Alors, le fait de faire ces avant-premières, dont vous prenez une trentaine de dates, est-ce que les Américains aiment bien des projections test, quitte à faire un remontage, etc. Est-ce que ce n'est pas tellement l'attitude des Français, non?
Ça ne se fait pas énormément. Je pensais, moi, que c'était important de le faire. Parce que pourquoi on se priverait de retour au début, quand on a encore la possibilité de modifier certaines choses? Il ne s'agit pas de prendre tous les retours des spectateurs lors des premières projections, mais oui, au moment du montage, on a fait une ou deux projections. On a convié un petit panel d'une trentaine de spectateurs, où on a essayé de prendre des retours. Et après, le réalisateur a toujours le dernier mot, et il est d'accord, il n'est pas d'accord. Pascal a l'intelligence et suffisamment à l'écoute pour, lorsqu'il a un retour, une dizaine de retours qui vont dans le même sens, de se dire, tiens,
il y a
10 personnes sur 30 qui me disent qu'ils n'ont pas compris là ou que ça, c'est pas forcément très drôle, alors qu'ils pensaient que c'était drôle, il a l'intelligence de tout de suite corriger. Je pense qu'il ne faut pas se priver de ce type de projection. C'est difficile pour un réalisateur de montrer son travail, c'est difficile pour un réalisateur d'avoir des retours de gens qui ne connaissent pas le film, mais je pense que c'est très important de le faire, et que ça peut que être positif pour le rendu final du film.
Dernière question, vos bureaux sont à Paris, dans le 8e, à la rue de Penthièvre, tout près de l'Elysée. Vous mangez de temps en temps avec Emmanuel au Penalty ou chez Genova?
Alors, j'ai jamais rencontré le président de la République. Je ne l'ai jamais croisé, d'ailleurs. Non, j'ai pas de contact avec lui. Le 8e arrondissement est grand, mais je lui passe le bonjour, et s'il veut aller voir le film,
il est le bienvenu. Merci à vous, en tout cas. Bah, ici, on rappelle donc On est fait pour s'entendre, qui sort le 24 novembre en Belgique. Merci.
Exactement, merci à vous.